Eh bien, bonsoir. Bonsoir à vous, fidèles de ces mardis d'éthique publique du Centre Sèvres, qui est présent avec nous ce soir. Bonsoir à toutes celles et tous ceux qui nous écoutent en région grâce à des prouesses technologiques par la voix des ondes ou par l'image. Et bonsoir également aux auditeurs de RCF qui peuvent aussi écouter ce débat, ce mardi d'éthique publique qui est consacré ce soir à la relation médecin-malade, quel impact du numérique ? Alors, c'est un mardi d'éthique publique un peu exceptionnel, puisqu'il est co-organisé avec le département d'éthique biomédicale du Centre Sèvres. Et donc, j'ai le plaisir de céder tout de suite la parole au père Bruno Sainteau, directeur du département d'éthique biomédicale du Centre Sèvres, qui va vous présenter le thème de cette soirée et nos intervenants.
Merci de votre accueil. La mise au point de l'ordinateur personnel et des réseaux informatiques a changé non seulement la pratique et l'efficacité de la gestion administrative et technique, mais aussi la pratique et l'efficience médicale. À l'hôpital, les ordinateurs ont remplacé, sur les fameux chariots roulants, les épais dossiers papier des patients. Dans les cabinets des généralistes et des spécialistes, l'écran qui permet de visualiser le dossier du patient et toutes ses données médicales et biographiques trône sur le bureau et semble parfois s'interposer comme une barrière entre le médecin et le patient. Les techniques d'analyse numérique et plus récemment les techniques d'intelligence artificielle ont permis d'affiner la précision et l'analyse des images ainsi que les corrélations entre d'immenses quantités de données médicales impossibles à traiter par d'autres moyens. Les moyens numériques permettent donc d'incontestables progrès diagnostiques et thérapeutiques. Depuis quelques années, de nouveaux outils qui combinent l'informatique, les technologies d'information et de communication, ainsi que la robotique, se développent en médecine et plus généralement dans le soin. Ils permettent de mettre en œuvre ce qu'on peut appeler la télésanté, la télémédecine qui regroupe la téléconsultation, la téléexpertise, la télésurveillance, la téléassistance, également les dispositifs médicaux connectés, les robots d'assistance, d'accompagnement et d'animation, et puis les toujours plus nombreux objets connectés de santé. Dans certains contextes, des psychologues organisent même des entretiens par écran interposé qui satisfont, selon les enquêtes, pleinement les patients. Dans sa stratégie nationale de santé 2018-2022, la Haute Autorité de Santé recommande notamment de généraliser les usages du numérique en santé pour abolir les distances. Les techniques ne conduisent donc pas forcément à un éloignement, à une séparation. Elles peuvent aussi rapprocher et bénéficier à la fois aux patients et aux soignants. Comment rendre compte des apports incontestables de ces techniques numériques et de la nécessité conjointe de réguler leurs usages pour mieux assurer la qualité du soin et donc la qualité de la relation médecin-patient, l'accès aux soins, la confidentialité et la sécurité. Pour restreindre l'ampleur du sujet, nous avons privilégié l'impact du numérique sur la relation médicale, le colloque singulier, l'entretien médical qui demeure et doit demeurer le centre de la pratique médicale. En effet, la médecine relève fondamentalement d'un art de la relation en contexte de souffrance et de plainte, et non pas d'une simple fourniture de prestations de santé entre un fournisseur et un client. Quels repères faut-il donc utiliser ? À quoi faut-il être attentif, personnellement, collectivement ? Plus généralement, à quelles conditions la médecine vivra-t-elle la révolution du numérique sans la subir ? Pour répondre à ces quelques questions, énormes sans doute, je remercie vivement les professeurs Nathalie Chabert et Gérard Réac de venir nous partager leurs expériences et réflexions. Professeur Nathalie Chabert, vous êtes professeur de gynécologie obstétrique et médecine de la reproduction, responsable de l'unité d'endocrinologie clinique et de la reproduction à l'hôpital Tenon, APHP, Sorbonne Université. Merci d'être là. Et professeur Réac, vous êtes professeur émérite d'endocrinologie diabétologie de l'Université Paris 13. Alors, vous êtes auteur de plusieurs ouvrages que malheureusement je n'ai pas apporté pour vous les présenter. Plusieurs ouvrages sur la non-observance des patients, l'inertie clinique des médecins et l'éducation thérapeutique. J'en cite quelques-uns. Pourquoi se soigne-t-on ? Enquête sur la rationalité morale de l'observance, 2005. Clinique de l'observance, l'exemple des diabètes, 2006. Un livre qui est dans la droite ligne de ce que nous allons débattre ce soir. Une théorie du soin, souci et amour face à la maladie, en 2010. Et en 2012, l'inertie clinique, une critique de la raison médicale. Alors, dans un premier temps, je passerai la parole au professeur Nathalie Chabert. Vous nous expliquerez comment votre pratique médicale et vos relations aux patients ont été modifiées par le développement des outils numériques. Puis, professeur Gérard Réac, vous nous aiderez à nous interroger plus globalement sur les conditions d'un bon usage de ces techniques et sur les manières de développer toujours mieux, à l'heure où les patients et les médecins aussi se plaignent parfois, souvent, d'une déshumanisation de la médecine, vous plaiderez pour une médecine de la personne. Donc, merci beaucoup de vos contributions et je passe la parole au professeur Nathalie Chabert. Merci beaucoup.
Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup au Père Sainteau pour son invitation à partager avec vous cette expérience de quelques années. On va dire que ça a commencé à peu près en 1994. Je vais me présenter brièvement pour vous expliquer un peu le champ de mon activité. Je suis, comme mon collègue, endocrinologue de formation, mais j'ai bifurqué vers la médecine de la reproduction dans ma spécialisation. Et donc, je m'occupe au quotidien de personnes qui souffrent d'infertilité, de personnes qui souffrent de pathologies pendant leur grossesse, de personnes qui ont un cancer et qui s'interrogent sur leur fertilité à venir, sur la possibilité d'être enceinte un jour, les hommes qui sont les époux de ces femmes également et qui peuvent avoir des problèmes d'infertilité, notamment, et également tout un pan de mon activité qui concerne les personnes à risque de cancer pour des raisons génétiques. Donc on est dans un champ où la relation pleine d'empathie et de disponibilité me paraît et m'a toujours paru être quelque chose d'absolument central et où la notion de confidentialité est également extrêmement importante, notamment pour tous les problèmes génétiques. Donc je ferai partie des dinosaures puisque j'ai appris mon métier sans l'informatique, puisque j'ai terminé mon internat en 1994. Donc le seul outil informatique à l'époque, c'était le codage de l'activité pour l'administration de l'hôpital. Donc on rentrait des codes à deux doigts sur des ordinateurs antédiluviens pour que l'hôpital puisse récupérer de l'argent auprès de la sécurité sociale. Et en dehors, alors déjà ça commençait à nous agacer puisque toutes ces informations qu'on rentrait dans le système informatique ne nous permettaient jamais de récupérer des informations pour faire de la recherche, pour pouvoir améliorer les soins qu'on donnait à nos patients. Mais bon, c'était une première étape. Donc, 1994, moi, j'étais en train de faire un DEA à l'époque, ça s'appelait, maintenant c'est les masters. Première étape pour pouvoir être chef de clinique un jour dans le service de mes rêves. Et donc, j'ai commencé à utiliser un ordinateur, justement, pour rédiger le mémoire de DEA. Et puis, petit à petit, l'informatique est rentrée dans ma vie de médecin, de chercheur aussi, bien sûr, mais dans la relation avec les patients. Donc, ça a commencé de façon insidieuse, en fait, parce qu'on travaille dans un service qui a été réuni avec une maternité et un service d'oncologie, chirurgie gynécologique. Et là, l'administration a décidé de nous séparer en nous mettant chaque unité à un bout de l'hôpital. Donc, on a, nous, ressenti la nécessité de ne plus avoir un dossier papier qui traverse l'hôpital dans tous les sens. Et on a développé un outil informatique personnel qui sont des dossiers de patients qui enregistrent progressivement toutes les données au fil du temps dans un document Word tout simplement et qui était disponible par le réseau de l'hôpital, donc de manière sécurisée puisque tout est accessible par des codes d'accès. Et ce système-là fonctionnait plutôt pas mal, mais était réservé à ce qui se passait dans le service et ne comportait pas toutes les informations, par exemple sur la grossesse d'une dame qui aurait été traitée pour un fibrome et qui maintenant est enceinte, et on n'avait pas les informations très facilement. Donc on commençait à percevoir toutes ces difficultés sur ce que c'est qu'un vrai dossier informatique du patient qui corresponde à toutes les données dont on a besoin et qui, c'était les embryons de dossier patient. Bon, à cette époque-là, ça fonctionnait encore. On arrivait à communiquer avec les patients de façon satisfaisante. Bon, quand on n'avait pas le dossier papier, ce qui arrive très souvent, on se référait au dossier informatique qui était incomplet. Mais au moins, on arrivait, grosso modo, à se retrouver en face de quelqu'un dont on avait à peu près un historique et un fonctionnement qui était avec un contact visuel persistant, ce qui maintenant est pour moi une véritable écueil que vous allez voir. Donc, À l'époque, en 91, j'étais un peu avant ça, j'étais interne à l'Hôtel Dieu. On commençait à parler du fameux dossier commun assistance publique hôpitaux de Paris. Donc ça a commencé à chauffer. Donc vous voyez qu'il a été mis en place à Thenon il y a à peu près 4 ans, donc 1991-2014-15-16. Donc il s'est passé un certain temps. Dans l'intervalle, au-delà de ces fiches communicantes, on a essayé justement de développer des outils informatiques pour avoir des dossiers qui collige toutes les données des patientes à risque génétique de cancer d'une manière sécurisée. Donc on a essuyé les plâtres d'essayer avec une petite société, ensuite essayer d'adapter à l'assistance publique un logiciel de l'extérieur, et finalement, troisième tentative avec quelque chose qui a été développé pour l'oncogénétique et pour l'assistance médicale à procréation, ça a fini par fonctionner. Donc là, on est rentré dans l'ère de « je remplis le dossier médical de la patiente pendant la consultation ». Donc, je regarde mon clavier, mon écran, et de temps en temps, j'arrive à détourner mon regard vers la personne qui est en face de moi, qui est en train de m'expliquer que sa maman, sa grand-mère, sa grand-tante et aussi son arrière-grand-mère sont toutes mortes d'un cancer du sein à l'âge de 30 ans. Léger malaise. Bien. Donc, j'ai trouvé une petite faille, comme j'ai la chance d'être enseignante, en fait. Maintenant, je travaille avec une interne à côté de moi, qui saisit toutes les informations informatiques pendant que moi, je peux parler à mes patientes et faire preuve d'un tout petit peu d'empathie dans ces situations épouvantables. On traite aussi des femmes enceintes avec un cancer pendant la grossesse. Enfin, c'est vraiment des situations où on ne peut pas se permettre d'être branché sur son ordinateur toute la journée. Donc, petit à petit, on a évolué vers un logiciel de plus en plus gros, de plus en plus difficile à manier, en fait, qui est pour l'assistance publique hôpitaux de Paris, le logiciel Orbis, qui est censé être un dossier commun à tous les patients de l'assistance publique. Donc, quand on est rentré dans Orbis, comme je gère de l'oncogénétique, j'ai pris rendez-vous avec la direction des affaires juridiques de la PHP en leur disant, moi, je suis un tout petit peu inquiète parce qu'en fait, ce dossier Orbis, je ne sais pas si tout le monde est au courant de ça, mais l'équipe médicale à la PHP, c'est tout l'hôpital dans lequel vous êtes suivi, et puis, petit à petit, toute la PHP, assistance publique hôpitaux de Paris. Donc, la notion de confidentialité, je confie ma vie à une équipe médicale restreinte que je connais, en qui j'ai confiance, est quand même légèrement... vous êtes censé accepter que tout l'hôpital fait partie de l'équipe soignante de... Qui s'occupe de vous. Alors, tout le monde a accès à votre dossier assez facilement en faisant ce qu'on appelle un bris de glace, en disant accès transverse urgence. Donc, a posteriori, vous pouvez demander à savoir qui a fait ça, mais bon, c'est déjà fait. Donc, finalement, la confidentialité est quand même, je trouve, assez mise en défaut par ces techniques-là. Et donc, on est dans une sorte de porte-à-faux permanent, à mon sens, avec des gens qui sont censés avoir lu quelque part dans un document toutes ces notions-là d'élargissement de la notion d'équipe médicale. En fait, ça ne concerne que les personnes qui sont hospitalisées. C'est caché quelque part dans le dossier d'accueil, dans d'hospitalisation. Alors, c'est pas en tout petit comme dans les contrats d'assurance, mais bon, c'est quelque part dans le document et où vous acceptez de facto, puisque vous rentrez dans cet hôpital, cette notion d'élargissement de l'équipe médicale. Donc on se trouve dans une difficulté, je trouve, de perte de contact, de perte de l'empathie et des moyens physiques qu'on met en œuvre pour avoir cette relation, et porte-à-faux en termes de ce qu'on offre à nos patients pour protéger la confidentialité de leurs données. Alors, en dehors de cette difficulté de relation avec les patients, l'autre chose qui se passe, c'est que... alors, j'adore l'interdisciplinarité, c'est-à-dire j'adore travailler avec d'autres spécialités. Je trouve que c'est extrêmement enrichissant, les spécialités médicales. Là, il a fallu entrer en contact avec le monde de l'informatique, avec des gens qui parlent un langage pour le moins hermétique, auquel on comprend rien. Il y a des portails qui portent des noms de fusées ou de ce que vous voulez. Et donc, on interagit forcément avec ces gens-là, puisqu'on est censé, nous, on ne va pas remplir des dossiers qui ont été créés par des informaticiens qui comprennent strictement rien à ce qu'on fait, et qui donc vont nous mettre des trames où tout est dans le désordre et on se retrouvera pas du tout. Donc, il y a eu cette difficulté supplémentaire, le temps que ça prend, tout le temps qui est occupé à essayer de comprendre ce que dit l'informaticien n'est plus dédié aux patients. Et c'est extrêmement chronophage, toutes ces organisations de mise en place des logiciels. plusieurs logiciels, pas d'interface entre les logiciels. Vous remplissez tout le dossier du patient d'un côté, vous changez de logiciel, vous tout recommencez à zéro. Un de mes beaux-frères qui est expert en informatique a été consulté par le siège de la PHP pour savoir pourquoi ça marchait pas. Alors l'informatique, j'ai un collègue qui disait toujours quand ça marche presque, ça marche pas. Donc, ça, faut le savoir. Et alors là, c'était très très bête parce que ce qu'il a expliqué à cette direction de l'informatique, je sais pas si vous êtes familier avec un tableur Excel, un tableau où on peut mettre des chiffres et faire des calculs. Et en fait, c'était comme si on essayait de copier un tableur Excel dans un autre tableur Excel qui n'aurait pas le même nombre de colonnes. Donc la difficulté, c'était ça. D'accord? 1991, 2016. Donc on est dans une difficulté d'organisation parce qu'on rajoute des couches et des couches et des couches d'intervenants et de législation. Donc ça c'est la troisième chose, c'est la rencontre avec le monde juridique, la législation qui est indispensable pour que les conditions dans lesquelles on utilise ces outils informatiques soient conformes aux lois qui respectent le secret des personnes et leur positionnement dans la société, etc. Et l'absence d'accès possible à des gens de l'extérieur qui viendraient regarder le dossier médical des personnes qu'on prend en charge, qui n'ont pas forcément envie. Alors, même qu'un autre médecin, je veux dire, moi je rencontre des femmes qui ne racontent pas à leur médecin traitant leur vie. Il y a des choses que le médecin traitant ne sait pas, et que les gens qui font de la médecine de la reproduction savent. Les interruptions de grossesse, les amants, tout un tas de choses qu'on apprend dans un colloque singulier, comme vous le disiez tout à l'heure. Et donc, cette extension du dossier médical à un large public potentiel, même s'il est temporaire, mais on ne le saura qu'après, pose un tas de problèmes, puisque du coup, vous ne pouvez plus colliger les informations qui vous sont confiées. Alors, quand vous voyez des gens tous les ans, c'est un peu difficile de se souvenir de tous les détails. Et pourtant, moi, j'ai besoin de connaître ces détails pour pouvoir interagir avec les gens que je prends en charge, parce que ça me paraît important de connaître leur vie. S'ils ont souhaité me confier ces choses-là, c'est que c'était nécessaire à la compréhension que je peux avoir de leur problématique. D'une autre manière, on peut avoir envie de confier certaines choses à un médecin à un moment donné, et puis un an plus tard, on a changé de vision des choses, on n'a plus envie de confier ces données à ce médecin. Dans un dossier non informatisé où on peut supprimer des pages, éventuellement on peut supprimer des traces, dans les dossiers informatisés dont on dispose, ce qui est saisi est saisi. On ne fait plus de modifications, sauf à avoir des codes spécifiques pour pouvoir supprimer des fichiers. Donc on entraîne la saisie dans le marbre en fait de tout un tas d'informations qui peuvent ne plus être exactes à un moment donné, qui peuvent avoir été confiées mais qui n'ont plus lieu d'être confiées maintenant, et surtout qui ont été confiées à quelqu'un et pas à une équipe, et encore moins à une structure gigantesque comme peut l'être la PHP. Alors, en plus, et ça va peut-être plutôt dans le bon sens, les différents hôpitaux de la PHP ne sont pas tous dans le même dossier informatisé pour l'instant. Donc, il y en a une partie qui sont dans le fameux Orbis, l'autre partie qui est dans différents logiciels qui se sont appropriés en attendant Orbis, puisque de toute façon ça fonctionnait pas, donc on s'en sortait pas. Et pour l'instant on n'arrive toujours pas à faire interfacer ça. Donc par exemple Robert Debré, qui est un hôpital pédiatrique, n'est pas dans le même logiciel que le reste de l'assistance publique. Donc ça veut dire que les enfants qui deviennent des adultes, puisque c'est quand même ça l'objectif quand on a des enfants, c'est de les amener à l'âge adulte, n'ont pas un dossier qui puisse être partagé avec les médecins adultes qui prennent en charge les enfants. Donc on retourne en arrière avec des dossiers papier. Donc ça c'était toute la partie dossier médical avec, je trouve, des difficultés très importantes et qui sont en plus aggravées par les dysfonctionnements du système informatique. Donc nous, on est noyés dans, c'est plus la paperasse, mais c'est l'informatique, les procédures, et la procédure des procédures, l'application qui tombe en panne, le système qui tombe en panne. Alors vous êtes en réunion de concertation pluridisciplinaire. Vous avez réuni pour rendre service aux patients 10 spécialistes différents. Il y a 20 personnes dans la salle. Le dossier du patient est affiché, ses informations et son imagerie. Les radiologues commentent les images et le système est planté. Pas de papier. Pas d'accès aux radios, plus personne comprend rien, il y a 15 personnes, 20 personnes bloquées dans une salle et on ne peut rien faire. Donc on attend qu'un technicien arrive. Chez nous, le staff, c'est 8 heures. L'arrivée du technicien, c'est 9h30 quand tout va bien. Et donc, le temps passé à attendre que quelqu'un trouve une solution au problème est au détriment du patient, parce qu'on était tous réunis justement pour faire avancer son dossier et prendre des décisions de façon concertée et intelligente. Donc, tout cette, ce système, ce dossier informatique est extrêmement intéressant parce qu'il a un potentiel énorme de gestion des données, d'avoir tout sur le même système informatique. Vous pouvez aller, quand ça fonctionne, regarder tous les résultats biologiques, regarder les images, regarder la consultation du cardiologue dans le même hôpital que vous. Comme vous allez donner un médicament qui a un impact, ça vous intéresse énormément. La difficulté qu'on rencontre aujourd'hui, c'est qu'on a vraiment, vraiment sous-dimensionné toute la notion technique. Et donc, on met beaucoup d'espoir dans ces logiciels, dans ces dossiers informatisés du patient. Pour l'instant, comme on aime bien faire une balance entre les bénéfices et les risques, on a perdu en qualité relationnelle, à mon sens, et on n'a pas suffisamment gagné en qualité technique, donner de la recherche, etc., pour continuer à exploiter ça et faire progresser de plus en plus le système. Alors, un des corollaires de ce dossier informatisé, c'est tout ce qu'on appelle la télémédecine, donc la télésurveillance, la téléconsultation, la téléexpertise, etc., donc, qui ne peut fonctionner que si tout roule comme sur des billes. Dans ma pratique, et je pense qu'on a la même expérience, je surveille les femmes enceintes qui développent un diabète avec un outil de télésurveillance et on communique par petits messages avec les femmes et tous les jours on peut regarder tout ce qui s'est passé dans la journée pour, elles connectent directement le petit appareil qui leur sert à surveiller le taux de sucre dans le sang. Tout est enregistré et on le récupère à l'autre bout. Donc ça, c'est des outils absolument merveilleux. Quid de la dame qui n'a pas de lecteur qui se connecte avec le système? Quid de la dame qui sait à peine recopier les chiffres, qui rentre les chiffres à la main dans le système quand elle arrive à se connecter, qui se trompe? Bon, ça fait partie des petits écueils de ces outils magiques, c'est-à-dire que, comme on dit, garbage in, garbage out, quand vous rentrez les choses erronées dans un système, ça reste erroné, et les interprétations qu'on en a sont donc erronées. Ça reste néanmoins des outils qui nous permettent d'être très proches de patientes enceintes, qui n'ont pas envie de se déplacer deux fois par semaine pour venir montrer leur taux de sucre, qui n'ont pas de fax à la maison pour envoyer un fax avec tous les chiffres de glycémie sur la feuille. Donc ça a permis au contraire de fluidifier pour les patientes qui ont accès à cette technologie et qui sont capables de s'en servir. Ça a permis de fluidifier les relations d'une manière extrêmement intéressante. Ces outils ont été développés pour s'adresser aussi à toutes les personnes qui ne peuvent pas se déplacer parce qu'ils habitent très loin, parce qu'ils sont très fatigués, très âgés, très malades, dans un contexte où, bien sûr, on s'est rencontrés au moins une fois avant pour pouvoir travailler ensuite à distance. Et dans certains pays comme le Canada, où les gens habitent vraiment très très loin et où on va très très loin dans la télé-expertise, la télémédecine. Cette télémédecine, en revanche, en fait, on l'exerçait depuis longtemps, puisque depuis très longtemps, on répond au téléphone aux patients qui sont inquiets, on leur passe un coup de fil, on leur parle. Moi, j'aime bien parler aux gens. Je préfère ça à leur écrire sur un clavier. Et eux, ils lisent chez eux. Bon. Donc, on leur envoyait des ordonnances par mail. Alors là, on se fait taper sur les doigts parce qu'en fait, c'est pas sécurisé. Moi, j'ai toujours considéré quand quelqu'un m'interpelle par mail et m'expose un problème et me demande quelque chose, je lui réponds sur la même adresse mail. Et j'assume qu'il a consenti à ce que je fasse ça puisqu'il a lui-même engagé la conversation. Mais il paraît que c'est pas exactement d'équerre. Bon. Donc, cette télé-expertise et ce partage informatisé des choses est en train de remplacer petit à petit les échanges verbaux et qui sont déjà plus des échanges présentiels, mais qu'on avait mis en place pour rendre service à nos patients. Donc, en fait, dans ce système-là, est en train de déborder en plus, alors ça concerne moins la relation avec les patients, mais je trouve que c'est important, est en train de déborder sur la relation entre médecins. Or, les relations entre médecins, c'est quelque chose d'important dans le soin qu'on apporte aux patients. Donc, il y a longtemps, on déjeunait tous en salle de garde, et une fois que le café était sur la table, on pouvait parler boulot, et donc, en 10 minutes, on réglait tous les problèmes de la journée avec tous les collègues de l'hôpital. Maintenant, on se parle en visioconférence. Je travaille dans un très grand groupe hospitalier, Pitié-Salpêtrière, Trousseau, Tenon, Saint-Antoine, plus les centres distants de soins de suite, La Roche-Guyon. Donc on ne peut pas faire de réunion trois fois par semaine avec des gens qui travaillent aussi loin les uns des autres, donc on se parle en visioconférence ou en téléconférence. Là encore, plus de contact visuel ou à travers un écran, plus de, je suis moi convaincue qu'il y a une transmission d'énergie ou de quelque chose quand on met plusieurs personnes dans une pièce et qu'on les fait réfléchir. On n'obtient pas les mêmes résultats quand ils sont chacun derrière un ordinateur et un tas de recherches et un enfant qui fait des neurosciences, qui est passionné par ce genre de choses. Et donc petit à petit, on est en train de détricoter tout le tissu qui fait la qualité des relations de professionnels qui ont décidé de s'occuper de quelqu'un d'une manière correcte et des relations entre ces différents professionnels quand ils sont en face d'un patient qui, dans un colloque singulier, toujours le même, a décidé de leur expliquer ce jour-là quelque chose et de pas l'expliquer aux voisins ou bien de partager ça avec tout le monde, mais pas forcément au même moment et pas dans un ordinateur. Je sais pas combien de temps il me reste. Je peux encore 3 minutes, je conclue. Donc, j'ai repris les notes d'un de mes collègues qui a été interrogé récemment sur, et ça fera le lien avec la communication de Gérard, sur que vont devenir les médecins avec l'informatique, l'intelligence artificielle, etc. Et donc, il décrivait la vie d'une gynécologue qui sera forcément une femme, parce qu'il n'y a plus d'hommes quasiment dans ce métier-là, et qui donc partagera son temps entre 10% dans un centre pluridisciplinaire où elle fera des actes techniques et 90% sur une plateforme commerciale de cybergynécologie. Elle aura des contacts virtuels avec des patientes peu ou jamais vues, un accès à leur algorithme de santé, nouvel élément, nouvelle orientation de l'algorithme, un rôle de simple information sur des choix déjà programmés, de larges possibilités de travail à domicile, ça c'est peut-être le côté positif, et une rémunération au temps passé ou au forfait en fonction du nombre d'abonnés au site sur lequel elle travaillera avec ses patients. Et ça fait partie de tout ce système de monétisation, là, des choses qui nous posent problème, c'est pour finir avec ça. Toute cette entrée de l'informatique, ça va entraîner, vous prenez en charge quelqu'un, ça fait partie du package de lui passer un coup de fil, de lui envoyer une ordonnance par mail, et on codifie pas ça, et on fait pas payer les gens pour ça. Là, on est rentré, vous savez, à l'hôpital public, en tout cas dans un système de contrôle administratif et financier extrêmement pesant. Et donc, on va se retrouver piégé à monétiser tous les petits éléments de la relation qu'on a avec nos patients, qui sont des petites choses qui font plaisir aux médecins et aux patients et qui entretiennent cette relation qu'on a d'empathie et de confiance avec nos patients. Je peux mettre ma diapo, Gérard, pour avoir une petite diapo. Donc, j'ai un petit dessin de Claire Bretéché que vous connaissez peut-être dans une bande dessinée qui s'appelle Docteur Ventouse Bobologue. Et donc, dans cette session, le médecin a rempli la page d'avant, tout le dossier sans rien regarder en face de lui, sauf son écran. Et donc, à la fin de la consultation, il dit au patient qui lui dit, c'est tout. Il lui répond, non, c'est pas tout, prenez une date farcie. Ah non, merci, je mange pas de date. Si, je vous en prie, c'est pour l'élément humain. Voilà, ça résume ma pensée sur ce fonctionnement.
Bien, merci beaucoup au professeur Nathalie Chabert-Buffet. Je vous rappelle que vous êtes à l'écoute du Mardi d'éthique publique du Centre Sèvres, consacré ce soir à la relation médecin-malade, co-organisée avec le département d'éthique biomédicale du même Centre Sèvres. Et donc, si le père Sainto m'y autorise, je passe la parole au professeur Gérard Réac.
Bonsoir et d'abord merci beaucoup pour votre invitation. Je dois dire que j'ai vécu un peu la même suite que toi. J'ai vu apparaître. Je me souviens en 1974, je me suis acheté ma première calculette. Elle faisait les additions, les soustractions, les multiplications et les racines carrées. Hein, c'était tout. Et puis en 1982, je crois que je me suis acheté mon premier micro-ordinateur Apple. Puis maintenant, je ne peux plus me passer de mon micro-ordinateur. J'ai un iPhone, j'ai une Apple Watch, enfin, comme tout le monde, quoi. Et puis, c'est entré effectivement dans mon métier de médecin. J'ai vu apparaître le dossier Orbis comme toi. Et je pense que c'est une évolution qui est inéluctable. Et il faut voir comment nous pouvons résister aux dangers de cette évolution. Et en essayant d'être aussi à la fois positif et critique que possible. Alors, je m'appelle Réac et j'essaye de ne pas être... Alors, j'aimerais intituler mon exposé « Médecine personnalisée » ou « Médecine de la personne ». Et je voudrais vous expliquer la distinction que je fais entre ces deux termes. Je dois dire que, d'abord, en ce qui concerne le numérique, puisque cette soirée, c'est la relation médecin-malade, quel impact du numérique, le numérique, c'est la science du traitement des données numériques, c'est-à-dire des nombres. Et il faut dire que l'ordinateur a une puissance infinie simplement par sa vitesse de calcul. Et il peut faire en microsecondes des choses que nous mettrions des semaines sans doute à réaliser ou surtout que nous serions incapables de réaliser. Vous savez que là j'ai une Apple Watch, c'est la première version, j'ai pas acheté la dernière. La dernière, quand on fait ça, quand on appuie là-dessus, vous avez votre électrocardiogramme. Et l'électrocardiogramme a été validé par la FDA à la suite d'études qui relèvent de l'intelligence artificielle. Voilà, donc on peut pas balayer d'un revers de la main en disant « c'est horrible ». Non, on peut imaginer que ça puisse rendre des services pour quelqu'un qui a une arythmie, par exemple. Alors, je pense qu'il y a surtout le fait que la possibilité d'analyser un nombre infini de données, c'est-à-dire ce qu'on appelle les « big data », énormément de données, et de données qui viennent de toutes parts. Je ne sais pas si vous avez remarqué une chose, quand vous allez sur Google, c'est gratuit. Vous savez pourquoi ? Parce qu'en fait, vous êtes employé de Google. À chaque fois que vous allez sur Google, vous enrichissez les connaissances que Google, la masse de données que Google est capable de traiter. Et je crois que si on regarde maintenant les choses d'une manière positive, eh bien le numérique va permettre de développer une médecine qui soit prédictive des maladies, préventive des maladies, personnalisée à vos propres données. Et puis, il y a une autre chose. Vous savez que l'accès à Internet, tout le monde a accès à Internet. Et donc, ça veut dire l'Internet, en fait, de même que Gutenberg avait imprimé la Bible. Et la Bible n'était plus seulement l'affaire des clercs, mais elle est devenue accessible à tous. Eh bien, par Internet, tout le monde a accès à tout, et notamment aux informations médicales. Et ça, c'est un quatrième P après préventif, prédictif et personnalisé. C'est la médecine participative. Et moi, ce que je voudrais vous proposer ce soir, c'est de rajouter à cette médecine 4P, un cinquième P qui est la médecine de la personne. Et quand je dis médecine de la personne, je voudrais bien vous faire comprendre la différence que je mets entre médecine de la personne, en laquelle je crois profondément, et médecine personnalisée, qui est simplement l'utilisation de vos données pour choisir, pour faire votre diagnostic et pour choisir pour vous le meilleur traitement qui aura le moins d'effets secondaires en fonction de vos données. Et je pense que quand je vais vous parler de médecine de la personne, en fait, c'est un retour à une médecine humaine qui a un petit peu disparu avec la scientisation, je ne sais pas si ce mot est très correct, de la médecine contemporaine grâce au progrès remarquable de la recherche scientifique. Et en fait, ce que je voudrais, c'est vous dire que quand je dis médecine de la personne, je vais vous donner la définition que je donne au mot personne, c'est un être profondément doué de pensées complexes. Et je crois que c'est une nouvelle attente à la fois des patients et des médecins. Les patients, vous savez que tout le monde va sur des réseaux sociaux. Bon, on peut dire que Facebook, c'est ridicule. Michel Serres, dans son magnifique petit livre « Petite poussette », a dit « Vous vous moquez du mot « ami » que nous utilisons. Avez-vous été capable de créer une communauté d'êtres dont le nombre atteint quasiment celui de l'humanité tout entière ?» Donc les patients vont sur les réseaux sociaux et ils y trouvent leur compte. Mais d'un autre côté, les médecins aussi veulent être traités comme des personnes, c'est-à-dire qu'ils refusent d'être les employés d'un système qu'ils ne maîtrisent pas et qui ne les concerne pas. Alors vous voyez qu'on a une double espérance de cette médecine de la personne, mais il faut bien constater que, en fait, les progrès médicaux ont conduit progressivement à une disparition de la personne, et c'est cela que, Nathalie, tu as décrit, en fait. Tu as l'impression de ne plus exister et que la personne en face de toi n'existe plus. Alors, vous voyez, je me suis amusé ici à faire cette image, une consultation médicale, et je lui donnais une forme caricaturale. En fait, vous avez deux personnes qui sont engagées dans une conversation. Pour moi, une consultation, c'est une conversation. Et entre deux personnes. Et par conversation, j'entends des échanges qui sont à la fois des échanges verbaux, mais aussi des échanges non-verbaux. Et c'est extraordinaire, ces deux personnes sont capables de communiquer entre elles grâce à une invention de l'esprit humain, qui est une originalité de l'esprit humain, c'est le langage. Vous savez, il y a une chose qui est très étonnante quand vous avez deux personnes l'une en face d'elle. Moi, je sais ce que j'ai dans ma tête en ce moment, ce que je pense. Vous ne savez pas ce que je pense. Et vous savez à peu près ce que vous pensez. Il y a des choses que vous ne savez pas que vous pensez, par exemple tout ce qui est inconscient. Mais je ne peux pas avoir accès à ce que vous pensez. Et heureusement, sinon aucun monde social ne serait possible. Imaginez que tout le monde sache. Par exemple, vous dites, tiens, il aurait pu mettre une cravate. Bon, que je vois ça dans vos yeux, ça me déstabiliserait complètement. Donc, vous voyez que grâce au langage, ce qui est la première capacité originale de la pensée humaine, eh bien, vous avez cette barrière de l'incommunication qui peut être franchie. Nous pouvons communiquer entre nous. Alors, je vous ferai remarquer que maintenant, quand on se place dans le métier du soin, la relation entre ces deux personnes qui sont représentées ici est une relation très singulière. Bon. Le métier du soin, c'est pas un métier comme les autres. Je vais prendre un autre métier que j'adore, que je respecte beaucoup. C'est le métier de boulanger. Imaginez que la personne de gauche soit le boulanger, la personne de droite, c'est le client du boulanger qui vient lui acheter du pain. Et en fait, l'objet de la relation entre ces deux sujets, c'est le pain. Maintenant, si je me replace dans le cadre d'une consultation médicale, vous avez à nouveau deux sujets, un médecin et un patient. Et vous voyez quelque chose de terrible, c'est que un des sujets de la relation est aussi l'objet de cette relation. Et je peux vous dire qu'il n'y a pas beaucoup de métiers comme ça. J'en ai trouvé trois autres. Il y a le prêtre, il y a l'enseignant et il y a l'avocat. Et je peux vous dire que ces quatre métiers, médecin, prêtre, enseignant, avocat, ont des points communs, par exemple le secret. Vous voyez ? Et ce que je vois que, en fait, ce qui nous fait... Pourquoi est-ce qu'on rit dans cette caricature que j'ai faite ? C'est parce que le sujet qui est devenu objet de la relation, en fait, ce que voit le médecin, il ne voit pas la personne. Il voit des données numériques. Et ça, c'est une première disparition de la personne. Maintenant, le deuxième temps de la disparition de cette personne, c'est la disparition de la clinique, grâce au progrès de l'imagerie. Je suis, comme Nathalie, endocrinologue, enfin j'ai été endocrinologue, et j'ai palpé des thyroïdes, toi aussi. Et je sais, je suis sûr qu'une échographie thyroïdienne fait mieux que mes doigts. Je vous jure, j'ai toujours continué à demander ou dire au patient, à me mettre derrière lui, dire « n'ayez pas peur, je ne vais pas vous étrangler », et lui dire « je voudrais palper votre cou, voici un verre d'eau, vous avalerez quand je vous dirai, parce que quand on fait ça, il y a la thyroïde qui remonte, et le nodule thyroïdien remonte et je peux le palper ». Alors je voudrais vous lire un texte d'un très grand philosophe allemand, qui est Hans-Georg Gadamer. Dans un texte intitulé « Du lieu caché de la santé », il écrit « traiter. En allemand, traiter, le fait de traiter quelqu'un, ça se dit behandeln, signifie palpare, c'est-à-dire palper avec la main, hand, palpa, prudemment et délicatement le corps du malade, afin de repérer les tensions et les contractures qui soit confirmeront, soit infirmeront la localisation subjective indiquée par le patient et que l'on appelle douleur. En fait, vous voyez que la technologie fait tout pour éliminer l'examen clinique de la consultation. Par exemple, la tension artérielle. Il y a un dynamap pour prendre la tension artérielle. Pourquoi est-ce que je prendrais la tension artérielle de cette personne ? Bientôt, on va me donner un assistant médical qui le fera à ma place. Et bientôt, j'en suis sûr, il y aura une fonction de l'Apple Watch qui prendra la tension artérielle qui me sera directement communiquée. Or, c'est très important, la palpation. La palpation, c'est le moment où le médecin touche le corps du patient. Ça a une valeur éthique, symbolique, qui marque la confiance que le patient a dans le médecin. Il doit me faire confiance pour accepter de se déshabiller et se prêter à mon examen clinique. Or, eh bien, vous voyez que il n'examine pas le malade. Il regarde ses données numériques. Ça, c'est le deuxième temps de la disparition de la personne. Le troisième temps de la disparition de la personne, c'est une invention extraordinaire qui est l'invention de ce qu'on appelle la médecine fondée sur les preuves, l'evidence-based medicine. L'evidence-based medicine a permis de démontrer l'efficacité et les prouesses médicales. On invente un nouveau médicament et on veut tester son efficacité. Qu'est-ce qu'on fait ? On prend 4000 personnes, on les divise en deux groupes par tirage au sort et je vous garantis que les deux groupes de patients moyens, on arrive à des patients moyens, ils auront exactement le même âge au mois près. Ils auront exactement le même poids à 100 grammes près. C'est la possibilité du tirage au sort. Et quand vous aurez démontré que tel médicament augmente la survie dans le groupe de patients à qui vous l'avez donné par rapport à un placebo, vous savez, quelque chose qui ne contient rien, vous aurez réalisé une double prouesse. D'abord, vous aurez inventé un médicament efficace et ensuite, vous aurez démontré de manière scientifique son efficacité. Mais cette efficacité, attention, elle est seulement statistique. Ça ne veut pas du tout dire que pour cette personne que le patient a en face de lui, eh bien, vous pourrez retrouver ce qui a été montré sur le patient moyen. Je voudrais vous citer Claude Bernard qui se méfiait des statistiques. Voilà ce que notre grand homme écrivait. Grand homme pour les médecins qui le vénèrent en tant que physiologiste. La méthode numérique, la statistique, ne conduit qu'à des conjonctures, à des probabilités et n'apporte rien pour les individus. Or, la médecine doit agir sur des individus. Vous savez, les patients moyens obtenus par tirage au sort, ils ont une caractéristique étonnante. Ils n'ont pas de visage. Cette personne-là que je connais, elle a un visage que je connais. Et en fait, le visage, c'est la personne. Je ne sais pas si vous savez, mais attention, et je parle des deux. Quand je vois le malade pour la première fois, je vois une personne et je regarde son visage. Quand elle me voit pour la première fois, elle me découvre par mon visage. Et en fait, je ne sais pas si vous savez, mais le mot « personne », on dit que ça vient du latin « persona ». Et « persona », c'était le nom du masque antique dans le théâtre antique. « Personare », ça permettait d'amplifier « personare », la voix de l'acteur. Et ça permettait au spectateur tout en haut du théâtre de reconnaître le personnage. Alors, vous voyez que c'est toute la différence que je vois entre une médecine de la personne, et attention, médecine de la personne, c'est à la fois médecine du patient en tant que personne et du médecin en tant que personne, et, disons, la recherche scientifique, celle des grands essais cliniques. Et je voudrais ici vous citer Edgar Morin. Edgar Morin, ce très grand sociologue, parle du triomphe de la science moderne. Il écrit « La science occidentale s'est fondée sur l'élimination positiviste du sujet à partir de l'idée que les objets existant indépendamment du sujet pourraient être observés et expliqués en tant que tels. L'idée d'un univers de faits objectifs, purgé de tout jugement de valeur, de toute déformation subjective, c'est ça quand on fait de la randomisation dans les essais cliniques, grâce à la méthode expérimentale et aux procédures de vérification, a permis le développement prodigieux de la science moderne. Ce texte d'Edgar Morin, je le tire de son livre « Introduction à la pensée complexe » et c'est bien pour ça que je vous propose de définir la personne, dans une médecine de la personne, comme un être doué de pensée complexe et c'est ce deuxième aspect que je souhaite développer maintenant. En quoi est-ce que notre pensée est-elle complexe? À quoi nous sert notre pensée? D'abord à comprendre le sens du monde qui nous entoure, mais aussi à donner du sens à nos actions. Il y a un philosophe américain, Donald Davidson, qui a défini une action comme un événement qui est causé par une raison. Nous avons des raisons de faire quelque chose, ce sont des connaissances, des compétences, des croyances, des émotions, des désirs, le plaisir, la douleur. Alors vous allez me dire, mais les animaux aussi, ils ont ça. Par exemple, mon chat. Mon chat, il sait qu'il y a du Whiskas dans le frigidaire. Et il désire manger du Whiskas. C'est pour ça que quand j'ouvre la porte du frigidaire, il se précipite. Alors peut-être qu'avons-nous en plus? Eh bien, je pense qu'en plus, il y a plusieurs choses. D'abord, il y a le fait que nous sommes capables de réfléchir, disons la réflexivité, c'est-à-dire cette capacité de réfléchir à nos croyances et à nos désirs et à les évaluer. Puis il y a une autre deuxième chose. Je pense que les neuroscientifiques nous apprennent que une des caractéristiques de l'esprit humain, c'est d'être capable de simuler l'avenir, de se projeter dans l'avenir. Peut-être qu'on a ces possibilités-là de réflexivité, de projection dans l'avenir, grâce au développement extraordinaire de notre cortex préfrontal, peut-être en raison de la forme de notre boîte crânienne. Mais il y a une autre chose qui, dans la pensée complexe, et qui fait la beauté de la pensée complexe, eh bien, c'est qu'elle est limitée. Elle est limitée d'abord par nos émotions. Vous savez, je ne sais pas si vous avez remarqué, quand vous ratez votre train de 3 minutes, vous êtes beaucoup plus furieux que si vous l'avez raté d'une demi-heure. Vous savez, vous voyez le train qui s'en va. En fait, c'est très important d'avoir cette fureur parce qu'elle va vous servir de leçon. Et vous voyez, mais les émotions peuvent être mauvaises conseillères. La colère peut nous conduire à faire des choses que nous ne devrions pas faire. Il y a un deuxième élément à côté des émotions qui limite la pensée humaine, c'est ce que les économistes comportementaux, et notamment de très grands chercheurs comme Daniel Kahneman notamment, ou Richard Thaler ont décrit, et Amos Tversky, c'est ce qu'ils appellent les heuristiques, c'est-à-dire la capacité du cerveau humain à penser rapidement. Daniel Kahneman, il a eu le prix Nobel d'économie en 2002, il a écrit un livre fascinant, Les deux vitesses de la pensée. Il y a la vitesse 1, c'est très rapide, je vous reconnais instantanément, si je vous reconnais, c'est pas en analysant tout, je vous connais, je dis bonjour. Bon, je peux me tromper, je dirais excusez-moi, je vous ai pris pour, vous voyez, mais ça c'est le système 1. Et le système 2, qui est un système beaucoup plus lent, qui est très exigeant d'un point de vue cognitif. Alors, évidemment, grâce aux émotions et aux heuristiques, elles ont des avantages énormes. Les émotions nous forment, les heuristiques nous permettent de raisonner rapidement. Mais le revers de la médaille, c'est que parfois, ça nous fait nous tromper. Et vous voyez, quand je parle de pensée complexe et de beauté de la pensée complexe, c'est en fait la rationalité, elle a sa limite dans l'irrationalité. En fait, les mécanismes de la rationalité font que l'irrationalité est possible. Exactement de la même façon que ma glycémie est normale parce que j'ai de l'insuline, oui, accessoirement, je suis diabétologue, Ma glycémie est normale parce que j'ai de l'insuline, et si l'insuline manque, eh ben je suis diabétique. J'ai des principes de rationalité, je suis rationnel, et eh ben si ces principes me manquent, sous l'effet d'une émotion par exemple, je me conduis de manière irrationnelle. Et je voudrais à nouveau citer Edgar Morin, toujours dans son livre « Introduction à la pensée complexe ». Après, vous avez vu que tout à l'heure, il louait les progrès prodigieux de la science moderne, disait-il. Voilà ce qu'il écrit. Il existe une véritable pathologie de la raison qui est la rationalisation, qui enferme le réel dans un système d'idées cohérent, mais partiel et unilatéral, et qui ne sait ni qu'une partie du réel est irrationalisable, ni que la rationalité a pour mission de dialoguer avec l'irrationalisable. C'est beau ça. La rationalité a pour mission de dialoguer avec l'irrationalisable. Et alors voilà que dans cette conversation entre deux personnes, toutes les deux douées de pensées complexes, s'introduit aujourd'hui la rationalité de la médecine numérique. Et c'est ça qui nous pose problème. J'ai mentionné tout à l'heure le fait que Richard Thaler avait eu le prix Nobel d'économie, lui c'était en 2017. Et le jour même où il a reçu le prix Nobel d'économie, on a appris que un ordinateur avait appris à jouer au jeu de Go et avait battu un maître du jeu de Go. Le jour même où Thaler, qui défend les émotions, l'intelligence artificielle bat la pensée humaine. Et voilà ce qu'a écrit un éditorial du Monde. Comment interpréter le choix de la Banque de Suède de consacrer une thèse faisant la part belle à ce qui caractérise la prise de décision humaine favorisée par les émotions des individus? Faut-il y voir une déconnexion totale des membres du jury avec le monde d'aujourd'hui, ou une volonté de consacrer la fin d'une époque où la réflexion humaine était au sommet de la chaîne intellectuelle? Non. On peut au contraire espérer voir un signal fort visant à réaffirmer que même face à l'émergence de l'intelligence artificielle, celle des humains est et restera la meilleure source de prise de décision. Revenons à notre image. Imaginez que la personne de gauche, c'est un champion d'échecs, Kasparov, et que la personne de droite, en fait, c'est un ordinateur, Deep Blue. Deep Blue va gagner. Et je vais vous dire, Kasparov a décrit, c'est incroyable, le champion du monde d'échecs battu par un ordinateur. Et Kasparov a décrit la partie qu'il avait jouée contre l'ordinateur. Il a dit « c'est terrible, j'avais pas l'impression de jouer ». Simplement parce qu'il n'avait pas d'émotion. Quand je joue avec quelqu'un, je peux voir cette personne hésiter avant de taper sur l'horloge. Ce n'était pas le cas. Et il ajoute avec humour « la seule chose qui m'a consolé d'avoir perdu, c'est que l'ordinateur ne semble pas avoir eu de plaisir à avoir gagné ». Alors voyez, si on revient à la thématique de notre soirée, c'est-à-dire la médecine à l'heure du numérique, on peut se reposer la question de sa place. Et imaginons à nouveau que la personne de gauche soit un médecin et que la personne de droite soit un patient. Je suis convaincu que les possibilités de l'intelligence artificielle vont amplifier de manière phénoménale notre possibilité de soins. Mais la question maintenant qui surgit, c'est est-ce qu'il y a quelque chose dans la médecine qui va rester irréductible, qui ne peut pas se transformer en numérique? Eh bien, je vais vous dire, je pense que c'est la capacité d'empathie, et c'est pour soi qu'on revient exactement à ce que tu as dit de l'intelligence humaine. Vous voyez, ces deux personnes se regardent, elles essayent de comprendre ce que pense l'autre, ce que désire l'autre, ce dont l'autre peur, l'un et l'autre d'ailleurs. Et en fait, elles font attention à ce que l'autre a dans sa tête. Je voudrais vous citer un très beau livre d'Yves Citon qui a écrit « Pour une écologie de l'attention ». Il écrit « Se montrer attentionné envers l'attention d'autrui exige d'apprendre à sortir des routines programmées à l'avance pour s'ouvrir aux risques et aux techniques de l'improvisation ». Est-ce que l'ordinateur va être capable d'improviser? Peut-être pas. Et c'est là où nous restons supérieure. Est-ce que l'ordinateur va être capable d'avoir des émotions? Je crois que oui. Il y a quelques jours dans Le Monde un article fascinant sur la recherche sur les robots qui ont des émotions, et on dit qu'on va les transformer en humanoïdes. Mais est-ce que les humanoïdes vont vraiment remplacer les humains? J'espère bien que non. Et maintenant, je voudrais terminer en faisant une comparaison avec la traduction. Une de mes filles est traductrice et elle m'a dit, tu sais, je lui ai dit que je m'intéressais à l'intelligence artificielle et à ses prouesses. Elle m'a dit, tu en as peur? Je dis, non, je pense pas qu'il faille en avoir peur. Elle me dit, moi je suis traductrice, j'ai un peu peur pour mon métier. Alors je lui ai dit, rassure-toi, je suis convaincu qu'un article scientifique pourra être traduit par un programme de traduction sans qu'on ait besoin de revoir la traduction par un correcteur humain. Mais il y a une chose qu'on ne pourra jamais traduire par un programme d'ordinateur, c'est Ulysse de Joyce. Vous savez qu'il y a eu la traduction qui a été revue par Valérie Larbaud et par Joyce lui-même, et depuis il y a eu de très nombreux traducteurs qui ont fait des traductions successives en essayant de se rapprocher de la pensée de Joyce. Et eh bien c'est impossible en fait. Pourquoi ? Parce que c'est une pensée complexe, et une pensée complexe est intraduisible. Alors vous voyez, voilà ce que je voulais vous dire, et ce que je pense, c'est qu'on vit un tournant qu'on ne peut pas éviter. Mais il faut que nous apprenions à maîtriser ce tournant, et je pense qu'il faut transformer les études de médecine. On peut louer le temps que nous vivons. Cette année, pour la première fois, on commence à mettre en œuvre la réforme du deuxième cycle des études médicales qui introduit en force, vous allez me dire qu'il était temps, la place des sciences humaines et sociales dans l'enseignement de la médecine. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vous remercie.
Voilà, un très grand merci, parce que je trouve que vous êtes admirablement complété, avec un diagnostic aussi qui a commencé ici par l'empathie, la relation, et puis on peut dire que vous l'avez mise en mots, vous l'avez donné de la chair, vous avez montré comment l'empathie avait un rôle central, et que dans ce colloque singulier, ces deux humains qui se rencontrent, et sans doute que rien ne pourra remplacer, y compris au niveau thérapeutique, la rencontre de deux humains. Alors merci beaucoup de ces développements autour de la personne et le cinquième point après les quatre P de la médecine, le cinquième P que vous avez ajouté, il me semble extrêmement important. Donc nous avons encore un temps de discussion, je crois, voilà. Nous vous remercions beaucoup en tout cas de vos apports et puis nous allons maintenant ouvrir la discussion.
Des micros vont circuler. Franck est là.
Peut-être que je pourrais commencer alors.
Oui, et puis tu peux poser la première question, et puis le père François Hevé, qui est rompu à l'exercice, prendra les questions alors, 3x3, comme d'habitude.
Bruno, voilà. Alors vous avez très bien montré une tension, on pourrait dire, avec professeur Nathalie Chabert a commencé par tout, les écueils, on pourrait dire. Et du coup, est-ce que le développement de l'intelligence artificielle, alors même avec ce que vous avez dit autour de les robots qui simulent, on pourrait dire qu'ils simulent des émotions plutôt qu'ils ne les éprouvent, qu'ils les simulent, est-ce qu'on ne pourrait pas dire que ça sera extrêmement complémentaire et que du coup on pourrait libérer le médecin pour le spécifique de l'inventivité du soin, tenir compte de la singularité, revaloriser la relation, ou bien c'est pas comme ça, on s'oriente pas vers ça? Est-ce que du coup il y a un passage délicat après de tout technique, mais on va bénéficier de la technique pour libérer la relation? Est-ce que ça vous semble possible, ou est-ce que c'est quelque chose sur lequel il faut pas compter, avec ce que vous avez dit aussi autour de la monétisation qui est sans doute un danger pour vous? Alors est-ce que c'est possible, en tout cas une véritable complémentarité, est-ce que ça vous semble possible ou pas?
Je vais vous dire, je pense que la réponse c'est profondément oui. Et mais en faisant attention. À l'instant, je pense à l'apprenti sorcier. Vous savez, le balai qui balaie tout seul et qui aide le maître à balayer la maison. Mais si on n'y prend pas garde, eh bien le balai peut se déchaîner. Voilà. Mais je pense que l'intelligence artificielle, avec notamment ses possibilités d'auto-apprentissage, hein, c'est ce qu'on appelle le deep learning, ça va avoir des possibilités extraordinaires qui vont pouvoir être utilisées comme le balai, alors pas pour balayer, mais pour créer des choses, pour faire des traitements de données que nous sommes absolument incapables de faire, et mais en faisant attention à ce qu'il ne nous fasse pas en fait disparaître parce qu'on n'en aura pas vu les limites. Ce sont des outils remarquables qui vont nous permettre. Je vais donner un exemple. Imaginons quelqu'un qui a une maladie très rare. Eh bien, il y a maintenant des gens qui mettent sur Internet tous les symptômes. On n'a pas trouvé le diagnostic. Tous les symptômes. Et vous savez, quand vous mettez quelque chose sur Internet, dans la seconde, il y a des millions de gens qui voient ça. Et qui vont répondre et qui vont dire, moi, je pense que ça pourrait être ça. Et on peut très bien imaginer que l'analyse de ces réponses arrive au bon diagnostic que sinon on aurait été incapable de faire. Voilà, un exemple. Alors, donc je crois qu'il faut être positif. Mais, en faisant attention, alors Nathalie vous a raconté ce qu'elle a vécu. Moi, je vais vous raconter ce que j'ai vécu. À ma consultation, avant, je raccompagnais le patient, j'ouvrais la porte, je disais au revoir monsieur, et puis je disais, j'avais la liste des patients sur mon bureau, et je voyais le patient suivant, je disais monsieur Duperrand. Alors on m'a expliqué que c'était pas bien de faire ça pour des raisons de confidentialité. Alors ça a changé. Alors ils ont maintenant, quand les patients arrivent, on leur donne un petit numéro, vous savez, comme à la charcuterie du centre Leclerc. Et alors avant, quand ils attendaient, parce qu'ils attendaient un peu à ma consultation, ils lisaient leurs livres. Maintenant, ils sont comme ça, à regarder un écran où arrivent les numéros. Je sais pas si c'est comme ça chez toi. Et en fait, moi, sur mon ordinateur, j'avais la liste des patients, depuis combien de temps ils étaient là. Et quand je cliquais sur un bouton, le numéro changeait et le patient, il venait me voir. J'avais même plus besoin de ramener le précédent à la porte, lui dire au revoir et de dire monsieur Durand. Non, il venait tout seul. Et à ce moment-là, j'étais prié d'appuyer sur un bouton pour dire que je commençais la consultation. Et qu'est-ce que je voyais sur l'écran? Défiler un compteur en secondes et il y avait écrit, je vous jure, durée de la transaction. J'ai hurlé quand j'ai vu ça. Je dis, je m'excuse. Ma consultation, c'est pas une transaction. C'est une consultation. Mais j'ai compris une chose, c'est que j'ai cru, je suis un peu parano, hein. Je me suis dit, pourquoi est-ce qu'ils font ça? C'est pour calculer la durée moyenne de ma consultation. Alors j'ai triché. Vous savez, je n'appuyais qu'à la fin. Alors ça faisait une consultation de 4 secondes. T'as pas eu ça?
Non, moi j'ai la chance de pas avoir le contour comme ça et je résiste, mais j'appelle les gens par leur prénom et leur nom. J'ai arrêté de dire monsieur et madame parce que comme je m'occupe de beaucoup de personnes qui sont en transition dans un problème de transidentité de genre, j'ai appris en revanche à pas dire madame et monsieur pour éviter des
quiproquos. Bien sûr.
Alors, nous prenons 3 premières questions.
Oui, bonsoir. Frédéric Mounier, je suis rédacteur en chef de la revue Laennec. Une question concernant la crise de l'hôpital. On dit beaucoup que cette crise a des causes financières, administratives, managériales. A-t-elle, de votre point de vue à vous, des causes numériques?
Une deuxième question, monsieur.
Oui, on se pose plusieurs questions après vous avoir écouté. La première question, c'est... est-ce que le numérique va remplacer la médecine? Non, le numérique ne va pas remplacer la médecine. Est-ce qu'on peut se passer du numérique? Non, on ne peut pas se passer du numérique. Et donc, quels sont les besoins? Donc, on a besoin d'ergonomie. Donc, Madame Chabert-Buffet a rappelé un chemin que j'ai fait aussi. Nous avons vécu la préhistoire du numérique en santé. Donc maintenant, il y a des systèmes sur Apple que même le Pentagone n'arrive pas à casser. On lui fait des procès pour pouvoir ouvrir donc les données. Donc la protection est possible et l'ergonomie est possible aussi. Donc je crois qu'il faut s'investir dans la protection, dans l'ergonomie. Et puis maintenant, l'autre dimension qui est soulevée par la présentation de Gérard Réac, c'est qu'on a besoin de réfléchir aux implications. Donc il faut probablement qu'on crée une agence de la sécurité numérique avec ses attendus éthiques, avec ses attendus techniques, avec son évaluation aussi sérieuse que celle qu'on fait dans l'essai contrôlé randomisé que tu nous as décrit. Donc pour moi, il y a de l'espoir, donc il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain.
Encore une question. Oui.
Bonjour. Une petite question par rapport à la masse des données qui sont amassées par les services. Est-ce qu'il y a véritablement un intérêt pour le patient? C'est-à-dire, est-ce que ces données seront utilisées pour essayer d'anticiper, un petit peu comme vous l'avez dit, des maladies, ou est-ce qu'il y aura des alertes qui seront faites pour les médecins? Un petit peu comme ce que l'on voit actuellement sur Google, vous en avez parlé, où une recherche permet de recueillir Google ressort énormément de données de toutes ces recherches qui sont faites et est même capable parfois d'anticiper, on va dire, une maladie avant même l'OMS. Est-ce que ces données serviront véritablement pour le patient?
Alors, les trois premières questions se répondent un peu les unes aux autres, à mon avis. Donc, je jette pas du tout l'eau du bain. Et je pense que simplement tout est une question de chronologie et d'organisation, comme vous l'avez dit, et que si on avait un tout petit peu réfléchi avant de balancer, s'il n'y a pas d'autre mot, tous ces systèmes informatiques sur le dos des soignants, et je parle parce que je suis médecin, mais je suis pas la seule, et tous les soignants sont concernés, des systèmes dysfonctionnels dont il nous est revenu d'assurer le développement, comme tous les utilisateurs d'informatique, hein, c'est un des grands succès de l'informatique, c'est que le gars balance un truc et c'est les utilisateurs qui font progresser son système et qui le mettent au point en payant des gens qui font de la maintenance, etc. Donc en fait, le problème et la crise de l'hôpital, elle vient de ça, c'est que, un, on a une pression financière, il faut produire, et deux, pendant ce temps-là, on fait les apprentis informaticiens, on n'y comprend rien, et on est censé faire progresser les choses, on perd du temps, on s'énerve, donc on s'occupe pas de nos patients, et donc on perd un petit peu foi quand même en ce qu'on a, pour beaucoup d'entre nous, choisi de faire, qui est de s'occuper des gens gentiment, avec empathie. Alors les robots, à ce sujet, pourront peut-être justement nous aider, parce qu'il y a quand même des jours où on est fatigué de mauvais poils. Donc peut-être là, ce jour-là, le robot pourra faire le job à notre place, être empathique, ému, etc. Et voilà, ça c'est la place que je vois au robot, moi, pour le... Donc ce dont on a besoin, en fait, c'est d'organisation. Et alors, à mon avis, surtout pas encore une nouvelle agence du truc et du machin, parce que là, quand même, on a beaucoup donné avec les agences, et je pense qu'on a passé beaucoup de temps à les regarder, essayer de fonctionner quand même avec beaucoup de difficultés. Donc si on veut mettre en place une nouvelle agence, faut qu'on ait un cahier des charges très, très précis. Parce que sinon, on va encore passer du temps et de l'énergie qui seront pas, à mon avis... utiliser. Après, la toute dernière question, j'avoue que j'étais déconcentrée et que j'ai pas comprise. Alors, j'espère que Gérard a des commentaires.
Bon, la crise de l'hôpital, elle a d'innombrables causes. Bon, mais il y a, dans les causes, il y a autre chose que seulement ce dont on parle beaucoup, qui est la T2A, des histoires comme ça. Bon, c'est vrai. Je pense que, en fait, il y a une crise profonde des agents hospitaliers. Quand je dis agent hospitalier, c'est au sens le plus général du terme, au plus noble du terme. C'est un agent. Et vous savez qu'un agent, c'est quelqu'un par qui les événements arrivent. Et ce n'est pas un patient qui est quelqu'un à qui les événements arrivent. Et les agents n'ont plus le sens ne comprennent plus le sens de leur métier. Et je vais vous dire, vous posez la question du rapport avec le numérique. Je pense que les agents hospitaliers sont comme les patients. Ce qu'ils détestent, c'est être pris pour des numéros. Voilà. Alors, par exemple, un des éléments de la crise, c'est ce qu'on a appelé la mutualisation des infirmières, qui fait que, eh bien, à cause de la pénurie d'infirmières, quand il y a une infirmière qui manque, Et on peut très bien comprendre pourquoi, parce que le nombre d'infirmières est limité, parce qu'il y en a une dont le petit garçon a la varicelle, il doit rester chez elle, et ben on va déplacer une infirmière d'un service pour la mettre dans un autre. Ça, ça a toujours existé, mais la fréquence de ce type d'événement a profondément augmenté. Et ça a un effet désastreux sur l'état d'esprit des agents hospitaliers. Ils ne sont plus reconnus comme des personnes. Et ils disent, on nous prend pour des pions. Voilà. Et vous voyez, je pense que ça, c'est une cause de la colère du monde hospitalier actuel. Et alors, la cause générale de tout ça, c'est la cause financière. Je pense qu'un problème majeur aussi, c'est le manque de temps. La question principale de la médecine actuelle, c'est le problème du temps médical. Comme on n'a pas le temps de faire les choses, on les fait vite, on fait des erreurs et on a l'impression qu'on devient maltraitant. Alors ensuite, concernant la question de Pierre-François Plouin sur les agences, ce que je pense qu'il faut contrôler en fait, c'est le risque que finalement la médecine, ça se transforme en des e-médecins, e-médecins, qui soignent des e-patients avec des e-recommandations, sur des big data, et tout ça surveillé par Big Brother. Voilà. Et mais ça, je pense que c'est la responsabilité collective du monde médical de comprendre qu'il y a un risque qui n'est pas négligeable. Et comment faire pour revenir à une médecine de la personne. Quand je dis revenir, je m'excuse, j'ai rien inventé. Si vous lisez les aphorismes d'Osler, il disait, ne demandez pas quelle maladie cette personne a, demandez quelle personne a cette maladie. Osler, dans les années 1900. Donc, c'est retour à cette source de la médecine. Je crois profondément que la scientisation de la médecine, qui lui a fait faire ses progrès grâce auxquels nous sommes en vie, parce que sinon il y a bien longtemps que l'espérance de vie serait toujours aux alentours de 40-50 ans. Heureusement, on a découvert des antibiotiques, de l'insuline en 1922, des antibiotiques 43, etc., etc., les antirétroviraux. Maintenant, j'espère qu'il y aura bientôt un médicament contre le coronavirus. Bon, j'ai pas mal d'espoir. Quand on construit un hôpital en 10 jours, ça peut aller assez vite. Et bien, oui, mais revenons à une, tous ces progrès-là ont fait que la personne a disparu et revenons à une médecine humaine. Alors, la troisième question qui était posée, c'était est-ce qu'on peut faire des alertes grâce au numérique? Je pense qu'il y a un exemple où ça peut être très intéressant. Le médecin qui soigne des patients hypertendus, cher Pierre-François, eh bien, reçoit sur son ordinateur un message. Attention, vous allez voir monsieur un tel. Nous savons que sa tension artérielle, qui est mesurée par son Apple Watch, n'est pas contrôlée, que notamment la nuit, ça se passe pas terriblement bien. Nous vous conseillons de changer son traitement de ceci à cela. Enfin, ça, tu le feras beaucoup mieux que moi. Et voilà. Et donc, et sinon, le médecin ne le fera pas, et ça sera ce qu'on appelle l'inertie clinique. Et je pense que l'intelligence artificielle peut avoir un rôle majeur pour améliorer la qualité des soins dans ce domaine-là.
Merci beaucoup. Nous prenons une deuxième série de questions. Tout au fond, là-bas.
Oui, Gérard, je suis étonné que tu n'aies pas prononcé ou évoqué les algorithmes. Parce que les algorithmes qui correspondent au développement de l'évidence-based medicine, pour les non-médecins, c'est un certain nombre de les données des malades qui donnent par un schéma descendant le diagnostic final, puis éventuellement le traitement. Et la difficulté, c'est qui valide les algorithmes. Les boîtes privées vont fabriquer chacune leur algorithme, mais il n'y a souvent pas une seule solution, en tout cas pour le traitement. Comment ça va se faire? Ce n'est pas pour défendre la position de François qui crée une agence, mais à l'Académie de médecine ce matin, en comité d'éthique, on a beaucoup discuté de savoir que faire de ces algorithmes. Alors on nous dit, mais bien sûr, le médecin restera décisionnel. L'algorithme dit, il faut faire comme ça, le médecin, après avoir écouté ce visage, prend une autre décision. Le malade meurt, porte plainte. Le médecin n'a pas respecté l'algorithme.
Bon. Un algorithme, c'est un...
On va prendre une deuxième question tout au fond. Madame.
Moi, récemment, j'ai eu une expérience un peu étonnante. Je suis arrivée sur Doctolib pour avoir un rendez-vous avec un médecin. Et on m'a proposé une consultation lointaine avec le médecin, soit assez rapidement, mais une consultation par Internet. Et donc, tout ce qui a été décrit là tout de suite sur la relation médecin-malade disparaît complètement. Il n'y a plus de contact, il n'y a plus de consultation. Si on a mal à la gorge, comment on fait pour le dire? Si on a de la fièvre, je ne sais pas. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Et est-ce que vous pensez que ça va se répandre et annuler complètement la relation médecin-malade?
J'ai perdu l'autre micro. Madame.
Oui, j'aurais voulu vous poser une question parce que là, on voit...
Parlez bien dans le micro, tout près du micro.
Non. Et ma question, c'est quand est-ce que les problématiques que vous avez soulevées risquent d'avoir un impact sur la psychiatrie? Parce que finalement, au jour d'aujourd'hui, c'est quand même un domaine où il existe encore une relation médecin-malade qui n'est pas trop modifiée par toutes ces données. Alors, qu'est-ce qu'il va y avoir après la génétique? Là, la troisième, qui risque encore de changer les choses.
Merci. Alors, d'abord, l'algorithme. L'algorithme, c'est quoi? Il faut faire attention. Un algorithme, c'est simplement une procédure qui passe d'une entrée et qui donne une sortie. Bon, il y a beaucoup d'arbres décisionnels qu'on nous a appris dans nos études de médecine. Dans le cas du diabète, du traitement du diabète de type 2 que je connais bien, il y a un arbre décisionnel qui a été fait par la HAS, qui est une absurdité complète, parce qu'il y a des cul-de-sac. Vous savez, vous arrivez là, puis ensuite, on sait plus très, très bien quoi faire. Hein. Donc, c'est idiot. C'est idiot parce que l'algorithme, ça suppose que quand même, ces arbres décisionnels, il ne devrait y avoir qu'une réponse à une question. Or, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. En médecine. Alors maintenant, c'est là où l'intelligence artificielle s'y met. Et il y a notamment le fait que les algorithmes, maintenant, ça va être, il y a toujours des entrées, mais ces entrées sont innombrables, des milliards d'entrées, potentiellement. Et il va y avoir plusieurs sorties possibles. Et entre les deux, il y a une boîte noire. Et dans cette boîte noire, il y a d'une manière générale, le plus souvent, ce qu'on appelle un réseau neuronal, qui est capable d'analyser toutes les possibilités, les probabilités, et grâce à la vitesse de calcul de l'ordinateur, non seulement d'aller vers la sortie, mais en plus de s'analyser en sens inverse, et ça c'est ce qu'on appelle le deep learning, qui est que le système s'améliore progressivement. Alors maintenant, qui va valider la validation, elle est très difficile à faire. Parce que, en fait, ce qui va se passer, je pense qu'on va avoir des essais cliniques qui vont voir le jour, où on va diviser les patients en deux groupes, ceux qui auront utilisé la méthode avec le réseau neuronal, et ceux où on aura fait comme on fait d'habitude. Il faut bien dire, par exemple, pour le diagnostic, jusqu'à maintenant, ça n'a pas été génial. Il y a un système qui s'appelle Watson. Quand on regarde les résultats de Watson, c'est pas bon. Bon, mais cela étant, on n'en est que au balbutiement. Je pense qu'il ne faut pas sous-estimer, peut-être jamais sous-estimer l'adversaire, hein, jamais. Je pense que les possibilités sont infinies et que ça va finir par marcher. La deuxième chose, effectivement, c'est si vous toussez, tapez 1, si vous avez de la fièvre, tapez 2, si vous toussez, si vous avez de la fièvre, faites le 15. Hein, bon. Alors, mais si vous rentrez de Chine. Alors, maintenant, il y a la question du psychiatre. Alors, je peux vous dire qu'il y a 25 ans ou 30 ans, il y avait eu un programme d'ordinateur qui était une consultation de psychiatrie.
Et ça marchait très bien. Et les gens leur disaient, qu'est-ce qui va pas? Alors, la personne tapait, je suis déprimé. Et ça allait vers une deuxième question. Est-ce que vous, de temps en temps, vous avez envie de passer à l'acte? Oui, de temps en temps, j'ai envie de passer à l'acte. Et puis, il y avait une question. Les gens étaient absolument convaincus qu'il y avait un psychiatre de l'autre côté, hein. Et puis, quand la machine ne savait plus quoi dire, ce qu'elle disait, elle dit, je vois. « Reparlez-moi de votre mère. » Et c'était reparti pour un tour.
Je voudrais reprendre la question de madame tout au fond. Je ne sais pas si vous connaissiez déjà le praticien auquel vous vous adressiez sur Doctolib, parce qu'en principe, on ne peut avoir de téléconsultation que quand on a rencontré le médecin en question dans l'année précédente. Sinon, normalement, ça n'existe pas. Voilà. Donc, effectivement, si vous connaissiez déjà le médecin, ça pose pas de problème. Sinon, c'est qu'il y avait un vrai souci. Et justement, donc, ce système qui permet d'avoir des téléconsultations alors qu'on se connaît déjà, ça rend service quand on a besoin d'un dépannage dans l'année qui suit la mise en place d'un traitement et que, effectivement, ça peut être compliqué d'avoir un rendez-vous. Donc, c'est à ça que sont dédiées ces téléconsultations. Voilà, donc je pense que ça peut rendre service effectivement pour gagner du temps et éviter un délai trop long de consultation.
Je voudrais maintenant vous dire des choses qui existent déjà, qui existent depuis très longtemps. Les yeux, il n'y a pas assez d'ophtalmologistes. Bon, c'est absolument ridicule que des ophtalmologistes voient des gens qui ont une rétine normale. Qu'est-ce qu'on fait depuis mes 20 ans? On fait ce qu'on appelle une rétinographie, qui va être transmise par Internet à un centre où il y a un ophtalmologiste qui se tape de regarder, hein, et quand il voit quelque chose qui est anormal, il dit « Ah, là, il faut une vraie consultation d'ophtalmologie ». Mais attention, maintenant l'intelligence artificielle, qu'est-ce qu'elle a rajouté à ça? Elle a rajouté l'analyse d'image, et elle est capable d'analyser un fond d'œil beaucoup mieux que le feraient les ophtalmologues. Donc, vous voyez, voilà. Bon, il y a plein de données. Toute l'analyse de l'imagerie. Ce qui est ridicule dans cette image, c'est qu'il ne regarde pas la personne. Mais si l'image, elle est interprétée par un ordinateur qui lui donne le résultat, ce n'est plus ridicule du tout. Je vous dis, c'est le balai de l'apprenti sorcier. Là, l'apprenti sorcier, c'est que il a oublié qu'il y a une personne derrière les images. Et il ne regarde que les images. Mon père patron ou maître Georges Chobrouski m'a raconté qu'un jour il a vu un patient qui lui a dit « Oui, j'ai vu un de vos confrères et je lui ai dit au bout de 5 minutes, quand vous aurez fini de parler à votre ordinateur, je vous dirai ce que je pense. »
Voilà. Voilà, une ou deux dernières questions, voilà, elles sont tout au fond de la salle puisque nous arrivons au terme de cette rencontre.
Une question, une réflexion. Je pense qu'actuellement, il y a un problème, c'est qu'on a mis sur la médecine des couches d'intelligence artificielle, de logiciels, d'objets connectés, etc., sans avoir une réflexion globale au niveau de la médecine d'une façon générale et une formation des médecins à cette approche qui apparaît et au niveau des malades et au niveau des médecins. Est-ce que c'est envisagé dans un terme pas trop lointain d'avoir une réflexion au niveau de la formation des médecins par rapport à ça? Ne serait-ce que par rapport à la question qui était posée tout à l'heure pour dire il va y avoir une consultation à distance, que ceci soit expliqué par le médecin, pourquoi on l'a fait, comment on l'a fait et à quoi ça va servir. Or, actuellement, les médecins répondent simplement en fonction de ce qu'ils savent et on ne leur a pas du tout appris quelque chose par rapport à ça.
Oui, sachant que le temps de consultation est limité, enfin, où le temps du médecin est limité, quelle part vous-même vous osez attribuer à votre propre intuition quand il s'agit de poser une question? On peut poser des milliers de questions à un malade pour une situation donnée, donc avec la logique informatique, qu'est-ce qu'on fait de ça? Et par ailleurs, je voudrais savoir, est-ce que vous pouvez, madame, nous expliciter comment corriger une erreur? Parce que j'ai eu le cas pour une personne que j'avais accompagnée, il y avait un compte-rendu fait à la main d'une lettre, qui a été tapé par quelqu'un avec une erreur majeure parce qu'il y avait une faute d'organe en fait. Et en fait, j'ai eu beau dire et redire à la personne qui a fait le compte-rendu et à la chef de service, ça a été transmis à l'autre hôpital et redire et ça n'a jamais été corrigé.
La question très technique.
Alors, pour faire corriger une erreur dans un document qui a été édité, mais que ce soit en papier ou informatisé et enregistré sous une forme définitive, c'est ça que vous voulez savoir ? Ouais. Alors, dans Orbis, alors, ce qui est compliqué, c'est que tout le monde n'a pas les mêmes habilitations. Donc, par exemple, quand je travaille avec une interne qui a saisi ses codes d'accès, elle ne peut pas délivrer de certificat de présence, par exemple, vous voyez. Donc, bon, elle peut pas non plus corriger des courriers. Moi, j'ai des habilitations qui me permettent de modifier un courrier. Mais je ne peux pas modifier le courrier d'un de mes confrères qui aurait écrit quelque chose d'erroné dans un de ses documents. Donc, ça peut être compliqué. Donc, une des solutions, ça peut être de rédiger un document qui dit la situation actuelle est consolidée et celle-là. Voilà, mais c'est ça, c'est le problème des copier-coller. Comme tout est saisi dans une racine qui décrit toute l'histoire et puis qu'on implémente au fur et à mesure, ça peut poser vraiment des difficultés. Je suis d'accord avec vous.
Sur la formation.
Alors, sur la formation des médecins, je vous ai dit, il y a une réforme du deuxième cycle qui est extraordinaire parce qu'elle impose d'introduire, il était temps, des sciences humaines et sociales dans l'enseignement des médecins. Et je peux vous dire ce qu'on fait dans mon université, donc à Paris 13. Maintenant, déjà depuis 5 ou 6 ans, je fais des cours aux étudiants en PACES, vous savez, les tout petits, ceux qui viennent de passer le bac. Les piou-piou, je leur fais un cours qu'est-ce que tomber malade, un deuxième cours 1h30, hein, un deuxième cours qu'est-ce que soigner, un troisième cours la relation thérapeutique et un quatrième cours une introduction à la notion de qualité. Depuis la réforme donc qui vient d'être mise en place, on a commencé un enseignement de philosophie de la clinique que j'assure, 10 cours dans l'année. Par exemple, je leur parle des heuristiques. J'ai un cours sur Kahneman. La semaine prochaine, je ferai un cours sur Freud pour leur montrer qu'il faut sortir de la médecine et aller voir ailleurs. Et en D2, on a prévu les grandes nouveautés dans la pensée médicale. Et ben, il y aura un enseignement justement sur l'intelligence artificielle et sur ces possibilités-là pour que ça soit enseigné aux étudiants en médecine. Maintenant, la deuxième question était passionnante. La question dans le temps limité, quel temps je donne à l'intuition? Eh bien, je vais vous dire une chose. Je pense que, justement, quand Daniel Kahneman décrit le système 1 de la pensée, le système rapide, mais c'est comme ça qu'on raisonne. C'est l'intuition. En fait, le fait d'avoir vu beaucoup de malades, quand vous le voyez et qu'il commence à dire qu'elle dit, vous savez ce qu'il a. C'est très curieux, c'est très bizarre. Et je vais vous dire, je pense que c'est exactement la façon dont on apprend à jouer aux échecs. Ça a été très bien décrit. Au début, on utilise des règles simples, peut-être les arbres décisionnels de tout à l'heure. C'est occuper le centre de l'échiquier. Surtout, tout faire pour garder sa reine. Une tour, c'est mieux qu'un fou. Les cavaliers, c'est très amusant parce que ça sautille. Bon. Et puis vous jouez, ça vous permet de commencer à jouer. Et puis vous jouez, et vous jouez, et vous jouez. Et inconsciemment, vous commencez à apprendre à reconnaître ce qu'on appelle des patterns, c'est-à-dire des échiquiers. Et le vrai grand maître, Kasparov, vous savez, comment est-ce qu'il joue? Il regarde l'échiquier, il fait ça. Il dit pas, je vais faire ça, donc il va faire ça, puis je vais faire ça, puis il va faire ça, et je vais le mettre maintenant. Il regarde, il fait comme ça. Ça a été au point qu'on a fait jouer à des grands maîtres d'échecs contre 15 personnes. Ils devaient passer de table en table, et pendant ce temps-là, on leur demandait de faire du calcul mental. Donc, ils ne pouvaient pas réfléchir. Et ils faisaient ça, ils regardaient, ils faisaient ça, et ils passaient, et ils gagnaient. Et en fait, ils avaient développé leur système rapide de pensée qui est l'intuition. Je suis convaincu qu'en médecine, c'est la même chose. Quand on a vu beaucoup, beaucoup de patients, beaucoup de gens qui ont des petits trucs et beaucoup de gens qui ont des gros trucs, eh ben, on commence à développer cette faculté qui est de deviner ce que le patient a. Et je crois qu'il y a des médecins ici, pense qu'ils vont reconnaître cette chose-là. Et c'est pour ça qu'il faut voir beaucoup de patients. Ma grand-mère me disait, et parce qu'elle m'a connu étudiant en médecine, elle me disait, Gérard, rappelle-toi toujours, jeune chirurgien, vieux médecin, tu seras bon quand tu seras vieux. Voilà, elle m'énervait un peu, mais je pense qu'elle avait profondément raison.
Merci beaucoup, Nathalie. Ben, un petit écho sur la...
Alors du coup, cette intuition-là, je pense que tu seras d'accord avec moi que pour l'avoir, il faut bien avoir les gens en face de soi et pas derrière un écran. En revanche, peut-être que l'intelligence artificielle, avec ses capacités d'intégration foudroyante et très rapide des choses, pourra peut-être approcher un jour cette intuition. Ce que tu en penses.
Oui, mais je pense qu'avoir la personne en face de soi, c'est, je sais pas, il y a, moi je pense qu'il y a quand même quelque chose qui est irréductible au numérique. Je me souviens de un de mes maîtres, qui est le professeur Paul Miliez, je crois qu'ici, qu'ils l'ont bien connu. Il était revenu d'une consultation en disant qu'il avait vu quelqu'un et il disait, sans mauvais, son affaire sans bon. Voilà. Et en fait, c'était ça. Et il savait exactement. Ou alors un autre, mon maître Roger Assan m'avait dit que son maître à lui, Maurice Dérault, lui avait envoyé un patient en consultation en disant, mon petit Roger, faites attention, je pense qu'il a un cancer du pancréas. Et effectivement, il avait un cancer du pancréas. Vous voyez, c'est indescriptible. Mais je pense que c'est peut-être une limite quand même de la télémédecine, parce qu'on ne peut pas tout voir. Et il y a des choses qu'on voit sans savoir qu'on les voit. Et en fait, c'est parce que nous avons des milliards de neurones. Hein, alors les réseaux neuronaux c'est remarquable ce qu'ils font. Mais pour le moment, cela étant, ne pas sous-estimer l'adversaire, ça va progresser à une vitesse phénoménale.
Voilà, un très grand merci de vos interventions et de vos apports. Vous avez plaidé pour une médecine de la personne et puis vous avez bien montré, et également par votre présence, que la médecine de la personne supposait l'événement de la rencontre. Et en vous écoutant, je me dis, en vous écoutant, c'est un événement, c'est qu'il se passe quelque chose, et il y a des intuitions qui sont communiquées, et il y a une certaine sagesse aussi dans ce que vous avez apporté. Donc merci beaucoup de vos engagements et continuez bien à transmettre ce que vous avez fait passer ce soir. Merci beaucoup.
Quelques brèves annonces. Donc le prochain mardi d'éthique publique, ce sera le mardi 3 mars et il sera probablement consacré à la vie politique française, à la préparation des élections municipales. D'autre part, vous savez que des corbeilles vous attendent à la sortie pour vous permettre de participer à l'organisation de ces soirées. Et enfin, à partir de jeudi, commence au Centre Sreve une série de conférences sur le métier de journaliste. 6 conférences sur le métier de journaliste. Il y a encore des places et vous pouvez regarder les affiches qui présentent ces conférences dans le couloir. Il y en a plusieurs ou à la sortie sur la porte vitrée de la sortie si vous voulez vous informer sur ce cycle de conférences qui s'annonce tout à fait intéressant.